quartier
de vie.
Une émission proposée par Résonance Sonore.
En France, on dénombre 2 millions de personnes amazighes. Amazighes, ça veut dire hommes et femmes libres. Et c'est ainsi que les personnes concernées préfèrent se voir nommées. Pour qualifier ces cultures natives d'un vaste territoire qui s'étend des îles Canaries au Burkina Faso, on parle parfois aussi de berbères, de kabyles, de touaregs, et on pense souvent au Maghreb. À Toulouse, des femmes amazighes ont eu l'élan de se lancer dans la mise en avant de leur culture d'origine afin de la maintenir vivante en elles et autour d'elles. Deux éditions d'un festival dénommé Amlili ont été les points d'orgue de cette volonté durant un week-end d'octobre 2023, puis 2 ans après, à l'automne 2025. À travers cette itinérance, des lieux toulousains d'envergure diverse ont accueilli des événements, le métronome, la cartoucherie, les abattoirs, l'espace diversité-laïcité, le centre culturel des Mazades, la maison amazighe. Cette maison, véritable petit tiers-lieu, est ouverte à l'année et y promeut la culture amazighe comme une source de refuge, de partage, d'inspiration créative. Alors suivez-moi à la rencontre de celle qui s'adonne à tout cela.
Alors, je suis Siam, je suis artiste plasticienne et je suis la directrice artistique du festival Amlili, qui est le festival de la culture berbère à Toulouse. Amlili, déjà, ça veut dire rencontre en tifinagh, berbère, donc. C'est une rencontre entre Deya et moi-même, deux femmes qui sont aussi mamans, entrepreneuses, chacune à leur compte, et toutes les deux algériennes. À Toulouse, et avec ce constat de se dire, ben, c'est un peu dommage, on est quand même assez nombreux à Toulouse, d'amazighes, mais il n'y a pas beaucoup d'initiatives autour de cette culture. Donc voilà comment est né le festival. Au tout début, Daya, elle avait déjà une idée de boutique, parce qu'elle fait beaucoup d'allers-retours en Algérie, elle ramène des choses. Elle est née là-bas, donc elle est arrivée ici, elle avait 18 ans. Donc on a deux parcours très différents, mais qui se complètent énormément. Et donc, elle avait ce truc-là de vouloir ramener des choses, de l'artisanat algérien déjà, dans un premier temps. Et ensuite, moi, j'étais plutôt... Voilà, je suis née en France, j'ai peu connu ma culture, j'avais un manque d'eux. Et quand je suis devenue maman, j'avais envie de transmettre plus de choses à ma fille. Donc, voilà, je cherchais des personnes qui étaient un peu dans la même dynamique que moi, sachant que déjà, dans mes peintures, c'est des questions que j'aborde beaucoup, voilà, le fait d'avoir plusieurs cultures, etc., comment on arrive à vivre avec tout ça, ou pas, d'ailleurs. Et en fait, voilà, on a commencé, quand on s'est rencontrés tout simplement... On s'est connecté sur les réseaux sociaux parce qu'on voyait qu'on avait un peu les mêmes questions, les mêmes thématiques. Et puis, on s'est rencontrés à Toulouse et on a parlé. Et puis, je lui ai proposé à Daya un deal un peu. C'était « Bon, bah écoute, toi, t'as une problématique, t'as une boutique à faire vivre. » Mais voilà, elle a un job qui est très prenant. Et moi, j'ai besoin de trouver un job et en même temps... Voilà, de continuer mes activités artistiques à côté. Donc, je peux t'aider voilà, un certain nombre de jours par semaine. Je te propose que voilà, je t'aide à faire la direction artistique de ta boutique et à faire vivre un peu ta boutique. Et en échange, voilà, elle me faisait... c'est vraiment un échange de bons procédés. Elle me faisait un contrat en alternance parce que je voulais reprendre mes études. Donc, c'était vraiment gagnant-gagnant. Et dans le même temps, elle me parle du fait qu'elle commence à faire des petites showrooms, pop-up comme ça... ponctuellement, pop-up store, et elle m'invite à faire à exposer en tant qu'artiste, sauf que bah, sur ce premier petit événement déjà, qui est, franchement je dis petit événement, mais ça avait déjà bien marché, on était assez surprise, on avait fait au Carme, et du coup, voilà, c'est de là qu'on s'est dit, mais il faudrait qu'on aille un peu plus loin, et je lui ai proposé de faire un festival. En fait, je lui ai dit, écoute, si tu veux qu'on aille vraiment au bout de ton idée d'avoir de la musique, tous les aspects de l'artisanat, tous les aspects de la culture, eh bien, il faudrait faire un festival.
Bienvenue à la Maison Amazighe, à Toulouse. Palais de Justice et la Maison Amazighe, c'est un lieu qui valorise la culture amazighe et qui notamment accueille l'équipe du Amlili Amazighe Festival. Bienvenue. Bien.
Rentrons. Daya, c'est moi, du coup.
En fait, ce lieu, c'est la continuité un peu logique de ce que j'avais déjà créé il y a à peu près 2 ans, un lieu qui se nommait l'Instant Berbère, qui était principalement une boutique, en fait. Mais l'idée de base du projet, c'était vraiment de créer un lieu dans Toulouse qui puisse faire découvrir aux Toulousains la culture amazigh. Et puis un lieu comme un lieu d'ancrage ou un point de chute pour les personnes qui sont amazighes, les imazighonnes de Toulouse ou même du reste de la France, hein, pourquoi pas, qui puissent venir se reconnecter un petit peu à leur identité ici. Et c'est un lieu dans lequel on retrouve cette boutique qui avait été créée il y a 2-3 ans, et puis dans lequel on retrouve aussi de l'événementiel, des activités, des ateliers, des petits concerts, des expos. Donc ça peut être un atelier de découverte de la poterie, de constitution de bijoux, avec Alia par exemple, qui d'habitude est là aujourd'hui, mais comme c'est l'Aïd, elle n'est pas là.
Je suis Myriam de Yemana Thérapie. Alors j'ai deux métiers d'abord. Je suis assistante dans le spatial. Et à côté, je suis auto-entrepreneuse et donc j'ai monté mon entreprise Yemana Thérapie. J'ai notamment donc l'atelier Yuyu que j'ai eu l'honneur de réaliser lors du festival Amnili à Toulouse le 18 octobre 2025. Et donc ce premier atelier ouvre la porte à plein d'autres ateliers, mais là en l'occurrence l'atelier Yuyu, c'est un atelier pour oser sa voix, oser se célébrer. Puisque le yuyu est une célébration, mais c'est aussi voilà, oser être vu et oser être entendu. C'est se reconnecter, c'est à travailler sur sa libération émotionnelle, puisqu'on travaille le souffle, on travaille les émotions pendant cet atelier. Et c'est vraiment un atelier de développement personnel, mais qui permet de se reconnecter à s'aligner, à ses racines, mais pas que, c'est ouvert vraiment à toutes les femmes, aux femmes du monde, qui veulent découvrir ce cri de joie.
Parce que le yuyu, traditionnellement, c'est plutôt dans les cultures du Maghreb.
Oui. Moi-même, je viens d'Algérie. Mon mari est marocain berbère. Donc, dans notre famille, on est puissamment accroché au Maghreb et à l'Afrique. Et c'est un cri qui est poussé dans toute l'Afrique, finalement, puisqu'il y a différents types de yuyu. Au Maghreb, on en connaît... donc avec la langue et puis généralement avec le geste caché avec la main. Et en Afrique, c'est plus avec la langue, mais d'une autre manière. Voilà, donc j'apprends ces deux techniques pour que chacune puisse s'approprier ce qui lui est le propre. Mais moi, voilà, je me suis reconnectée vraiment à l'Algérie et à ce que j'avais entendu pendant mon enfance. Alors, les yuyu s'expriment généralement dans... des cérémonies familiales, les mariages, les baptêmes, les moments de joie en fait. Dès qu'on a quelque chose à célébrer, on fait entendre puissamment qu'on est content, qu'on est heureux. Et donc c'est les femmes qui célèbrent à leur manière et c'est leur manière. Mais ça a aussi été, à un moment donné, dans l'histoire notamment d'Algérie, un outil de résistance pour communiquer, pour porter la voix loin et donner alerte. Sans vraiment trahir par des mots ou sans se révéler. Il y a juste voilà, un signal.
Et tout le monde arrive à faire le yuyu ou parfois c'est un peu difficile?
Alors, comme c'est vraiment lié aux émotions, au souffle, c'est parfois difficile. Mais avec la technique donc, du coup, que j'enseigne pendant l'atelier, les femmes repartent avec leur yuyu. Parce qu'on a envie souvent d'imiter ce qu'on a entendu, alors des yuyu puissants, des yuyu qu'on a entendu pendant les fêtes. Mais il faut savoir que chacun a son propre yuyu, comme nous avons chacun notre propre façon de parler, de nous exprimer, notre unicité.
Et alors, votre lien avec le festival Amnili et la culture amazigh?
La maison amazigh, qui était autrefois l'Instant Berbère, me parle énormément puisqu'elle rassemble les arts dans leur multiplicité au sein d'un même lieu. Et c'est ça qui m'a attirée, les arts traditionnels du Maghreb et berbères. Notamment. Donc ça, moi, ça m'a parlé. L'équipe de Daya et SIEM accueille chaque artiste dans sa personnalité, dans qui il est, et leur propose des espaces sereins pour exercer. Et j'y ai trouvé voilà, un attachement, un lieu ressource, un lieu racine, où je pouvais développer sereinement voilà, mon atelier et le proposer.
Alors les ateliers créatifs, ça va être des ateliers qui se font avec les artisans ou les artistes avec lesquels on travaille. L'idée, c'est pas forcément de s'adresser à des personnes qui sont issues de la culture amazighe, c'est aussi, encore une fois, de faire découvrir aux Toulousains, Toulousaines, ce patrimoine culturel, à travers l'art et l'artisanat, quoi.
Vous-même, vous êtes amazighe ?
Oui, moi je suis amazighe, je suis née en Kabylie, en Algérie, et je suis toulousaine depuis un peu plus de 20 ans maintenant. La ville de Toulouse m'a adoptée, je l'ai adoptée aussi. Hein. La couleur de Toulouse, ça ressemble beaucoup à certaines régions amazighes. Ce ocre-là, terracotta, la pierre naturelle.
Et vous, qu'est-ce que vous sentez de vivant en vous, de votre culture amazighe ici ?
Bah, tout en réalité, moi je suis... Bon déjà, j'ai beau être physiquement ici, mon cœur et ma tête est toujours un petit peu là-bas. Je suis connectée en permanence, j'y vais très très souvent. Mais après, je dirais la première chose, ça reste quand même la musique. Et puis l'artisanat, j'ai toujours des bijoux amazighes sur moi. J'ai toujours un petit truc, un petit vêtement ou une petite paire de boucles d'oreilles qui me reconnecte à ce patrimoine culturel-là. Mais c'est quand même beaucoup la musique. Bon, alors en ce moment, je suis très portée sur la musique touareg, donc j'écoute que de la musique saharienne. Parce que les imazirennes, c'est le terme au pluriel de amazir, donc berbère. C'est vaste, en fait, comme culture. Souvent, on pense Maroc, dans un premier temps, alors qu'en fait, les imazirennes, c'est toute l'Afrique du Nord. Et souvent, les gens n'ont pas conscience que les touaregs, par exemple, sont aussi des imazirennes. Donc en ce moment, j'écoute beaucoup de musique saharienne, Tinariwen, Imarahen. Pour me reconnecter aussi et garder la langue, parce que je vis dans un environnement francophone, je m'exprime en français en permanence, et il y a quand même un peu cette crainte de perdre la langue. Et notre langue, c'est ce qui fait qu'on existe encore aujourd'hui. On est une culture orale, donc si on n'avait pas eu cette langue, si on n'avait pas eu la musique, si on n'avait pas eu les poèmes et les artisans avec ce qu'ils fabriquent, je me demande si on n'aurait pas disparu.
L'année dernière, on a participé au Métropulse, qui est en fait, pareil, c'est le métronome, donc qui est une salle de concert assez sympa à Toulouse. Et ils ont mis en place en fait ce dispositif pour aider les créateurs d'événements, de festivals à Toulouse à se développer et à se structurer, et vraiment à faire un concert dans les règles de l'art. Donc on a été super contents, on a répondu à l'appel à projet. On a été retenus, on était super contents. Donc ça, pendant un an, pareil, on a été suivis avec des cours et tout. On a rencontré la SACEM, la DRAC, etc. Tous les acteurs du milieu de la musique et du concert. Et en plus, à la fin, on avait un concert avec le métronome. Donc nous, on en a fait deux là-bas. On a eu donc Sina Awel, qui est une chanteuse qui chante en berbère et qui est de Nice. Et on a eu le groupe Imarhan. Imarhan, c'est des Touaregs. C'est traditionnel, mais en même temps, c'est des musiques quand même assez modernes. C'est assez rock'n'roll presque, les musiques touaregs.
Donc pour en revenir au lieu, c'est vraiment un endroit dans lequel on organise tout un tas d'événements en lien avec cette thématique-là. Au moins, il y a une exposition de photos d'un artiste photographe qui s'appelle Younes Fari, toulousain, et qui lui aussi avait un travail très personnel de pouvoir justement travailler sur la reconnexion à son identité. Bon, finalement, cette expo, elle s'est un petit peu imposée à lui parce qu'il a perdu son grand-père il y a quelques mois. Et en allant au Maroc, ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas été là-bas, il s'est retrouvé dans la situation de devoir vivre le deuil d'une famille, sachant qu'il n'avait pas forcément les codes. Toujours une histoire de code aussi pour ceux qui sont nés ici, comment se comporter quand on va là-bas, etc. Et la seule chose qu'il a trouvé à faire pour être, malgré tout, c'est le nom de l'expo, présent, c'est de faire des photos. Donc là, on a un peu cette expo qui va durer pendant 2 mois et qui raconte un peu cette histoire d'une personne qui se reconnecte à ses racines dans le pays d'origine de ses parents à travers un moment qui est quand même un peu compliqué pour une famille. Et ça, après, l'idée, c'est qu'il y ait des expos quand même régulièrement. T'as le showroom ici qui est installé, notre boutique qui regroupe un certain nombre d'artisans avec qui on travaille, qui peuvent être soit présents sur le territoire français, soit en Afrique du Nord. On en a quand même pas mal qui sont en Afrique du Nord et qui nous déposent leur production. On a à peu près une cinquantaine d'artisans. Et après ici, c'est notre bureau en fait. Hein. Parce qu'on a toute notre activité avec notre agence, Team Meet Agency, d'événementiel, qui porte aussi en partie la production du festival. Donc là, aujourd'hui, les alternants ne sont pas là, mais on est une petite équipe à travailler ici sur la création d'événements et puis l'accompagnement des artistes, sur tout ce qui est direction artistique, booking, communication, etc.
L'artiste à Mazir ?
Plutôt, ouais. Parce que sur la direction artistique, il y a un certain nombre de codes. La petite touche liée à l'identité à Mazir, qu'on comprend bien. Donc l'idée, c'est qu'on puisse leur apporter cette plus-value. Puisqu'on comprend leur art qui est souvent quand même lié à leur identité. Soit quelque chose qui leur manque. Je pense comme nous tous ici, on fait les choses avec d'autres projets, mais les artistes, il y a quand même quelque chose qui est lié à leur identité. Il y a des artistes qui font le choix de chanter en tamazirt parce qu'ils veulent contribuer à la transmission de la langue, ou qui dans leurs textes parlent peut-être de certains tabous dans leur famille, ou ce genre de choses. Et je suis convaincue qu'en fait, il faut réussir à comprendre dans quel état d'esprit ils sont pour pouvoir les accompagner correctement. Alors, on va descendre au sous-sol, puisque c'est un grand lieu ici, la Maison Amazir. Et notre sous-sol, c'est un lieu dans lequel on organise des événements. Pendant le Amélie Amazir Festival, on a notamment organisé une projection documentaire ici, avec une discussion autour de, pas la fétichisation, mais comment faire pour que cette culture, ce qui est le cas de plusieurs cultures minorisées, hein, ne soit pas folklorisée ou muséifiée, ne plus leur permettre de continuer d'évoluer. Si tu la figes pour qu'elle puisse rester dans un bocal et plus du tout être actuelle et donc pas vivre avec son temps, oui, c'est problématique. Et de la même manière que faire des choses qui sont complètement folkloriques, pas travailler sur le fond, c'est aussi problématique. Parce que tu l'as dilué complètement. C'est comme ça qu'on arrive à minoriser des cultures qui, en fait, ont des fondations qui sont fortes, anciennes, avec des valeurs, avec un certain nombre de choses. Si j'ai créé si je contribue à tous ces projets ou que j'ai créé ce lieu, c'est parce que moi-même, je n'ai pas trouvé dans certains événements liés avec ma culture des choses que je cherchais. C'est-à-dire que quand j'ai envie de fêter ma culture, je trouve qu'on ne doit pas se limiter juste à mettre des jolis vêtements et aller danser et manger. C'est sympa, hein, je trouve que c'est bien aussi. Mais il faut aussi travailler sur le fond. Voilà. Et je pense que le folklore, c'est ça. C'est un peu juste l'aspect festif, mais qui reste en surface. Et ça, je pense que c'est dangereux quand même pour la culture.
Alors, on a fait aussi des projections documentaires, notamment sur les documentaires de Malik Bourkache. Lui, il fait des portraits, il va en Algérie, il fait des portraits de femmes kabyles, qui va directement filmer et pas interviewer parce qu'en fait, il les laisse parler. Donc c'est ça qui est très joli, c'est que vraiment, c'est très naturel. Et c'est des femmes d'un certain âge. Donc pour nous, c'est important parce qu'il y a cette question-là de ne pas perdre notre histoire. Parce que comme dans toute l'Afrique, les Berbères, il y a cette tradition de l'oralité qui fait qu'il y a des choses, comme elles ne sont pas écrites, qui se perdent avec les anciennes générations. Et du coup, c'est une manière de laisser une trace. Et franchement, à chaque fois qu'on diffuse ce reportage, tout le monde pleure dans la salle. C'est très émouvant. Et c'est rigolo parce que ça touche autant des personnes qui sont de la culture amazigh que d'autres. On a aussi diffusé le reportage de son collègue Idriss sur le tatouage. Et on a invité des personnalités à échanger sur les sujets à chaque fois. Par exemple, on a eu Leïla qui est Raïssa Leï sur les réseaux sociaux, si vous voulez. Et elle est activiste en fait. Elle aime bien qu'on dise artiviste parce que c'est une artiste effectivement, mais elle pousse souvent les coups de gueule sur un tas de sujets qui touchent le fait d'être de la diaspora, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Et là, en plus, elle est venue d'ailleurs pour sa prestation, qui est autour des bijoux amazigh, donc qui s'appelle Timazirine. Et elle a présenté les bijoux, etc. Et on a parlé aussi de toute cette symbolique des bijoux et des tatouages. Donc elle faisait partie de nos intervenantes, avec nos tatoueuses aussi, des tatoueuses qui sont venues tatouer sur place.
Mais du tatouage...
Définitif, ouais. Alors jusqu'ici, on ne l'avait pas fait parce qu'on faisait venir des tatoueuses qui font du henné ou du jaguar. Mais avec le temps, on en a parlé avec Daya, puis je disais, il faut qu'on ait des tatoueuses qui font du vrai tatouage, parce que nos grand-mères, elles étaient vraiment tatouées, en fait. C'est-à-dire du vrai tatouage dans le sens tatouage définitif. Et du coup, voilà, on a eu deux tatoueuses qui sont venues. Donc Habiba Tatou, qui est de Montpellier, et notre Miss Kelimiti, qui est toulousaine et qui, en fait, elle utilise la technique à l'aiguille, en fait. Donc voilà, qui est plus proche de la technique que nos grand-mères utilisaient. On a fait ça à la maison à Mazir parce que ça s'y prêtait bien et qu'on a un espace qu'on peut fermer et... au niveau hygiène, c'était OK. pour que les personnes soient un peu en intimité. Ceci dit, on a aussi, parce qu'on a eu un marché de créateurs aussi, qu'on a fait à la cartoucherie. Donc là, on a plein d'artisans qui sont venus exposer leurs créations. Et on a quand même proposé un stand de tatouage pendant le marché de créateurs, en plein milieu de la cartoucherie. Ouais. Et au début, on s'est dit, mais t'es sûre, Kelly, ça va le faire, comment ça se passe? Et elle nous a dit, vous inquiétez pas, on va surtout expliquer un peu ce que c'est le tatouage, et ça permettra aux gens qui sont vraiment intéressés de prendre rendez-vous ensuite et de venir à la maison à Mazir. Sauf que, pareil, succès de fou, elle a eu la queue toute la journée, il y a des gens qui se tatouaient directement, qui se faisaient tatouer directement en plein milieu des halles de la cartoucherie. C'était assez marrant. Bon, après, elle faisait juste des flashs, hein, c'était des tout petits tatouages qu'elle proposait, pareil sur la thématique Amazir. Mais ouais, on était surprise de voir que les gens se tatouaient comme ça, sur un coup de tête, en plein milieu d'un marché de créateurs.
Alors, la présence de tatouages dans la symbolique, dans ce que ça raconte, vous, comment vous la comprenez ?
Alors, plusieurs choses. Et d'ailleurs, je vous pousse vraiment à voir le reportage de Idir sur le tatouage qui est Ikrad. Parce que, en fait, elles n'ont pas toutes le même ressenti par rapport à leur tatouage. Donc, il y a une fierté, parce que ça représente la culture, parce qu'il y a des symboliques, parce que, par exemple, on tatoue quand une femme se marie, ou pour protéger du mauvais œil, ou pour plein de raisons, ou pour symboliser le caractère d'une personne, tout ça. Mais il y a des femmes aussi qui ont eu, en fait, des tatouages imposés. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de regarder ce reportage pour voir leur voix à elles. Mais voilà, je pense que c'est une histoire... vraiment autour de la féminité et très personnelle à chacune et aussi aux régions, parce que dans chaque région, il y a des symboliques différentes. Voilà. Et il faut savoir que c'est des symboles qu'on retrouve aussi dans l'artisanat, par exemple dans les tapis qu'il y a dans l'expo au Mazad. Et ça permet aussi, en fait, de communiquer entre elles. Voilà. Il y a beaucoup de fonctions au tatouage et aux symboles à Mazir. Alors, Tisser le monde, broder l'identité, c'est une exposition donc qu'on a mis en place avec Marion, qui est chargée des expositions au Théâtre des Mazades. Ce qui est intéressant, voilà, c'est vrai que il y a tout ce truc de la matière dans la culture amazigh. Donc, elle m'a proposé d'exposer les tapis et j'ai dit mais oui, on les expose comme des œuvres d'art. Ça fait un moment en plus que je me dis qu'il faut que ce soit exposé comme des œuvres d'art parce que ces tapis, ils sont uniques, en fait. Chaque tapis, c'est une histoire. Donc, les femmes, elles mettent dedans des messages. Et ces tapis, ils servaient soit à communiquer. Par exemple, quand une femme, elle était mariée et qu'elle était loin de sa famille, ça lui permettait, en envoyant un tapis, de communiquer avec sa famille, sa maman, comme une lettre, en fait.
À travers les symboles, les couleurs ?
Exactement, à travers les symboles et les couleurs. Alors, Amina, qui est donc la tisserande, elle fait partie d'un collectif de femmes qui font du tissage vraiment à l'ancienne, quoi, et qui essayent de préserver, en fait, les techniques. Et voilà, donc elle nous amène les tapis au début pour les vendre, en fait, à la boutique. Et elle fait des interventions, en fait, des conférences où elle explique, là, voilà, elle peut... D'ailleurs, on avait une conférence avec, au début de l'expo, là, qui était super intéressante parce que voilà, elle est beaucoup mieux placée que moi pour parler de ça. Et enfin, donc Nébuleuse, elle fait ce travail de collecter des photos anciennes des femmes d'Algérie qu'elle va venir broder en fait avec du fil, du fil, et ça fait de la couleur et c'est super beau, quoi, voilà. Autour de la réappropriation de son image, parce que c'est souvent ces photos-là, c'est des images coloniales, les photos des femmes qui ont été faites à l'époque où la France était en Algérie, et donc pas forcément des photos consenties. Donc du coup, elle parle beaucoup de ces questions-là, et elle essaye de redonner une dignité à ces femmes, par exemple en couvrant une poitrine qui était dévoilée sans consentement, par exemple. Ce genre de questions-là. Donc, c'est assez fort comme thématique. Eh bien, si tu veux bien, je t'amène au Théâtre des Mazates. Comme ça, on va voir l'exposition directement et puis rencontrer Marion, surtout.
J'aime beaucoup ce lieu. Voilà. Ah ben, il y a Marion là-bas, je l'ai rendue. Avec les enfants, je crois.
Merci. On a eu énormément de demandes de gens intéressés pour venir voir l'expo, donc ouais. Ça
ouais, qu'on refasse,
beaucoup
quoi.
Beaucoup de ouais, honnêtement ça a cartonné ouais, et les ateliers ont cartonné aussi, donc
non
on a eu beaucoup
merci.
D'engouement pour cette expo, et beaucoup de gens en fait ont adoré le titre, et le titre leur a donné envie de venir en fait,
ouais.
C'est vrai que le titre il donne
envie
d'aller découvrir ce qu'il y a derrière.
T'as fait une belle médiation dessus, moi j'adore, je suis trop...
Et c'est vrai que je me rends compte, même sur la saison passée, dès qu'on a de l'artisanat, ça parle aux gens, c'est très concret, ça amène une autre dynamique aussi dans nos salles d'exposition. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça attire pas mal le public. Et puis, on est sur quelque chose de... C'est de la transmission, en fait.
Ouais.
C'est la transmission par le geste. Après, moi, j'ai eu beaucoup de mamans algériennes qui ont accompagné leurs enfants dans les visites. Et du coup, j'ai beaucoup échangé avec, notamment hier, sur une maman qui m'a montré des choses que je connaissais pas, notamment le tissage sur les sacs de semoule.
Ah oui.
Et du coup, elle m'a dit « je vais te ramener un sac ». Donc, je trouve ça génial de pouvoir échanger sur d'autres pratiques que moi, je connaissais pas. Et il y a quand même une toile qui interpelle énormément les jeunes, c'est la toile sur la Palestine.
Eh ben oui.
Ouais. On est quand même dans l'actualité sur cette toile, et il y a eu beaucoup... Enfin, tous les enfants ont été attirés de suite par cette œuvre, ouais.
Vous travaillez sur une prochaine édition du festival ?
Donc oui, on travaille sur la nouvelle édition. Normalement, on devrait rester sur la même période, c'est-à-dire le mois d'octobre, mais ça dépendra beaucoup aussi des lieux qui pourront nous accueillir pour les expos, les concerts, etc. Sachant que cet endroit, la Maison Amazir, va accueillir quand même une partie des activités. C'est en 2027, hein, c'est demain 2027.
Est-ce que vous espérez avoir des soutiens financiers qui vous permettraient de, notamment de pouvoir vous payer ?
Oui. Ça, c'est clair. C'est même une condition à ce que ce festival puisse perdurer dans le temps. C'est vraiment impossible de faire autrement parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui l'avons produit, le festival, tant d'un point de vue des moyens humains que parfois financièrement aussi. Et ça, c'est sûr que si on n'a pas des soutiens financiers par des sponsors, des mécènes, ça risque d'être effectivement compliqué sur le long terme.
Vous venez d'écouter Amélie, rencontre Amazir à Toulouse, réalisée par Claire Cachecouche-Soucy. Merci à Siam Koukeb, Daya Boudaren, Myriam Mouyazem, Marion Volochine et à Imaran pour la musique.
Quartier
de vie.
Retrouvez son podcast sur
www.resonance-sonore.fr.